Fouette Boukhari.
Une opération de grande envergure contre les migrants clandestins. Les États-Unis doivent lancer ce dimanche une vague d'arrestations et d'expulsions. Annonce qui a suscité, vous l'entendrez, de nombreuses réactions. L'agriculture suisse face au défi du changement climatique. L'Union suisse des paysans a présenté hier plusieurs pistes pour un changement de cap. Et puis la planche des belles filles a livré hier son verdict sur le Tour de France avec un nouveau maillot jaune. Une opération massive pour expulser des clandestins des États-Unis doit débuter ce dimanche. C'est ce qu'affirme le New York Times, une mesure Céline Fontana qui doit se dérouler dans au moins 10 villes du pays.
La police de l'immigration a obtenu les ordres d'expulsion décidés par les tribunaux pour environ 1 million de personnes. Parole du chef des services fédéraux de l'immigration, Ken Cuccinelli. Dans les faits, les renvois concerneront 2000 familles dont un membre est en situation irrégulière, selon le quotidien new-yorkais. Cette vague d'arrestations avait été annoncée le 21 juin dernier par Donald Trump, puis reportée de 2 semaines pour laisser le temps au Congrès de trouver un compromis sur les mesures de sécurité à la frontière sud. Les clandestins visés seraient ceux entrés récemment aux États-Unis. Ils auraient reçu leur avis d'expulsion en février dernier. Pour Ken Cuccinelli, c'est sûr, l'opération sera menée, mais pourrait être limité par les difficultés logistiques comme le nombre insuffisant de policiers ou le manque de place dans les centres de détention.
Et quelles sont les premières réactions, Céline ?
Eh bien, du côté démocrate, c'est l'indignation. Hier au Congrès, les responsables ont appelé Donald Trump à protéger les enfants de l'opération et ont dénoncé une mesure cruelle qui menace des gens qui ont fondé une famille aux États-Unis et dont certains membres sont des citoyens américains. Le New York Times, qui s'appuie sur les propos de responsables du ministère de la Sécurité intérieure, indique enfin que les rafles pourraient faire des victimes collatérales, autrement dit des clandestins présents sur les lieux au moment de l'opération, mais qui ne sont pas sous le coup d'une arrestation.
Merci Céline Fontana. La contre-attaque de Michael Lober a échoué. Le procureur général de la Confédération devra bien se récuser dans l'enquête autour de la FIFA après les rencontres non protocolées avec Gianni Infantino, le président de l'instance mondiale du football. Michael Lober avait demandé la révision de la décision du tribunal pénal fédéral de l'écarter de l'enquête, mais hier la Chambre des recours a annoncé son refus d'entrer en matière. Ils sont à la fois acteurs et victimes. Les agriculteurs souffrent du changement climatique tout en étant eux-mêmes responsables. L'agriculture suisse, qui représente 13% des émissions de gaz à effet de serre dans le pays. L'Union suisse des paysans, l'USP, a donc présenté hier les pistes pour relever ces défis, adaptation et innovation technologique. Écoutez, Martine Rouffert, président d'AgroCleanTech, association qui promeut les énergies renouvelables et l'efficience énergétique.
La technologie est importante, c'est clair. Par exemple, on a des installations de biogaz. Avec ces installations, on peut diminuer les émissions. C'est un aspect. À l'autre aspect, c'est avec la technologie, par exemple, pour la gestion de l'eau dans la culture. Et ça, c'est très important pour réagir sur cet changement du climat. Le secteur est très sensible sur ce sujet. On a l'année passée avec des effets très négatifs sur le secteur. Et maintenant, on est obligé d'investir, de s'adapter à cette réalité.
Des propos recueillis par Marc Menichini. Et dans cette lutte contre le changement climatique, l'Agence de l'énergie appelle à utiliser toutes les technologies pour réduire le CO2, même les plus controversées, y compris le nucléaire. C'est le point de vue donc de l'AIE. Elle veut stopper la chute du nucléaire, dit-elle, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Rini Gromo, il faut dire que la majeure partie du parc nucléaire mondial est en train d'atteindre sa date de péremption.
Aux États-Unis, 9 centrales sur 10 ont déjà plus que 30 ans et en Europe, 8 sur 10 approchent de l'âge de la retraite. C'est à 40 ans, en général, qu'on débranche une centrale nucléaire. Mais si elle a été régulièrement entretenue et que tous les investissements nécessaires ont été faits, notamment pour sa sécurité, alors on peut prolonger sa durée de vie. Ce genre de décision est rarement populaire et pourtant, c'est ce que préconise aujourd'hui l'Agence internationale de l'énergie. Parce que si on ne le fait pas, elle estime que 4 millions de tonnes de CO2 seront diffusées en plus dans l'atmosphère. Dans les 20 prochaines années, en effet, les centrales à gaz et à charbon seront encore les seules à pouvoir compenser cette extinction programmée des centrales atomiques. Aujourd'hui, le nucléaire fournit 10% de l'énergie dans le monde et constitue la deuxième source d'énergie décarbonée après l'hydraulique.
Vélo, voiture, transport public, installation de bornes électriques. La ville de Sion entend favoriser l'électromobilité.
Elle a présenté hier ses objectifs, mais cela, ça passera par certaines contraintes. C'est ce que dit notamment Philippe Varonne, le président de la ville.
Des contraintes d'infrastructure, il faut prévoir les installations pour permettre la recharge. On sait qu'aujourd'hui, une des clés de l'électromobilité, c'est pas forcément l'achat du véhicule, mais c'est sa capacité à pouvoir être rechargée. Donc il faut anticiper et prévoir ça dans un aménagement de voirie notamment. C'est des contraintes financières parce que ça a un certain coût. Et puis c'est aussi peut-être le dialogue avec tous nos partenaires économiques, commerciaux, pour aussi les encourager à être les relais et les moteurs de cette électromobilité. C'est un sacré défi, il faut beaucoup d'informations, beaucoup de communication pour que les gens remplacent peut-être leur véhicule thermique par un véhicule électrique et puis surtout qu'ils fassent appel à la mobilité collective ou la mobilité douce électrique.
Tripoli et le gouvernement libyen d'union nationale reconnu par l'ONU réclament des explications urgentes à la France. Paris qui a reconnu que des missiles découverts dans un QG du maréchal Khalifa Haftar près de Tripoli lui appartenaient tout en réfutant les lui avoir fournis. Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, élu en avril, se sont parlé hier pour la première fois. Un échange téléphonique où il a été question du conflit en Ukraine, un éventuel échange de prisonniers a été évoqué. Les deux chefs d'État ont également parlé de la poursuite des rencontres au format Normandie avec la participation de la France et de l'Allemagne. Et si les chutes chez les seniors n'étaient pas une fatalité, on sait leurs conséquences à la fois physiques, psychologiques et sociales, sans oublier leur impact certain sur les coûts de la santé. Portée par la filière physiothérapie de la HES SO Valais, une étude sur ces problématiques se déroule actuellement. Elle a pour but de comparer les effets de 3 programmes d'exercice à domicile chez les personnes de 65 ans et plus. Et les premiers résultats, Yves Terrani, sont plutôt encourageants.
Les progrès sont là, les sujets encadrés chez eux par des physiothérapeutes affirment sentir eux-mêmes des améliorations, et cela dans de bonnes proportions. De quoi ravir Anne-Gabrielle Mita-Aguerre, professeure de la HESSO Valais, qui pilote ce projet.
Avec les personnes qui ont terminé les 6 premiers mois de l'étude, on a pu observer une amélioration de la vitesse de marche, une amélioration de leur capacité fonctionnelle de se lever, de s'asseoir sur une chaise, et surtout une diminution de la peur de chuter. Et ça, c'est très réjouissant.
Nombre et gravité des chutes, facteurs de risque, qualité de vie et adhésion aux exercices proposés sont donc comparés à travers les 3 programmes que comprend l'étude. Mais il y a un hic. Pour que la validité scientifique de celle-ci soit attestée, il faut que 405 personnes y participent. Or, seuls 300 jouent le jeu actuellement. Du coup, la période de recrutement se voit prolongée jusqu'en décembre prochain. Maintenant, pourquoi cette difficulté à trouver des sujets ? La réponse de Gabrielle Mita-Aguerre encore.
La difficulté réside dans plusieurs situations. Tout d'abord, les instances de recrutement. Des personnes âgées peuvent dire oui, j'accepte, mais au moment de les rencontrer, refusent. D'un autre côté, les personnes n'acceptent peut-être pas forcément qu'un physio vienne à leur domicile de manière régulière. Ou alors le déni simplement de dire non, moi j'ai pas de problème de chuter, c'est vraiment par hasard si je suis tombée.
Précisons que cette étude, qui vise à diminuer le nombre de chutes chez les aînés, se déroule sur l'ensemble du territoire valaisan. Elle touche aussi l'agglomération lausannoise. Si tout va bien, elle prendra fin en décembre 2020.
Le sujet d'Yves Terrani. De nouvelles investigations vont être lancées en France dans l'affaire dite des bébés nés sans bras. Le comité d'experts scientifiques mandaté par les autorités de santé pour élucider ce mystère doit rendre ses premières conclusions aujourd'hui. Plusieurs cas groupés ont été identifiés entre 2007 et 2014. 8 dans l'Ain en France voisine, 3 en Loire-Atlantique et 4 dans le Morbihan. Une pollution du réseau d'eau potable pourrait être en cause. 11 ans après leur chef-d'œuvre en finale, Roger Federer et Rafael Nadal se retrouvent sur le gazon de Wimbledon, mais cette fois en demi-finale. Match à suivre cet après-midi après la première rencontre entre Novak Djokovic et l'Espagnol Roberto Bautista Agut, prévue à 14h.
Et puis il y a du vélo aussi. Dylan Teunch, vainqueur hier à la planche des belles-filles.
Il s'est adjugé la première étape de montagne dans les Vosges. Le coureur belge s'est imposé devant l'Italien Giulio Ciccone, qui lui s'est emparé du maillot jaune. Les deux hommes ont mené à bien une longue échappée avant de se disputer la victoire dans la très raide montée finale. Écoutez la réaction du vainqueur.
Je cherchais une occasion de m'échapper, mais j'ai attendu de voir la réaction du peloton. À un certain moment, on s'est retrouvé à 14 et l'écart ne cessait d'augmenter. Je me suis dit qu'on avait une bonne chance de survivre et j'ai su saisir cette chance. Ouais, c'était une belle arrivée avec un final spectaculaire, mais j'aime les fortes pentes et ça, c'était un avantage pour moi. C'est super difficile, mais vous savez, en Belgique aussi, les monts sont très raides sur les classiques et j'y ai déjà fait des podiums. Donc je savais que j'étais performant sur ce genre d'arrivée.
Allez, ce vendredi, le peloton abordera la plus longue étape du Tour de France, 230 km entre Belfort et Chalon-sur-Saône. L'épilogue en football du feuilleton, Antoine Griezmann, le FC Barcelone, a versé hier par virement bancaire les 120 millions d'euros, la somme nécessaire au paiement de la clause libératoire de l'attaquant français dans son contrat avec l'Atlético Madrid. Antoine Griezmann qui évoluera donc la saison prochaine avec Messi, De Jong, Suarez et peut-être Neymar, ce sera l'autre grand feuilleton de l'été. L'attaquant brésilien doit s'exprimer cet après-midi sur son avenir entre Paris et Barcelone. Après les dames, les échecs, le jeu de go, une intelligence artificielle a battu pour la première fois des champions de poker dans des parties à 6. Annonce faite hier par des chercheurs de l'université Carnegie Mellon et de Facebook. L'exploit de cette intelligence artificielle appelée Pluribus est décrit dans la prestigieuse revue américaine Science. Selon les deux concepteurs, la voie est ouverte pour que de l'intelligence artificielle résolve davantage de problèmes du monde réel où, comme au poker, des informations sont cachées ou indisponibles et des joueurs qui bluffent.
Et je vous l'ai dit, un jour, l'intelligence artificielle fera de la radio.
Elle vous remplacera et,
ben
aussi,
oui, et vous aussi. Et on ira jouer au tennis.
Voilà.
Voilà, merci.